Je suis Maximilien Durand, le directeur du département des arts de Byzance et des chrétientés en Orient au musée du Louvre.
Est-ce qu'on peut dire que c'est une nouveauté que cette section du Louvre?
Alors oui, c'est une nouveauté importante. On ne crée pas un département au Louvre tous les matins. C'est le 9e seulement en 230 ans. C'est aussi, au-delà de la nouveauté, c'est aussi un projet nécessaire, je crois. Puisque c'est une civilisation, la civilisation des arts de Byzance et des chrétientés en Orient, qui occupe une place déterminante dans l'histoire du monde et qui, finalement, est mal connue. C'est aussi un projet important parce que la collection du Louvre dans ce domaine est une collection de référence et qu'il était difficile d'en prendre conscience. Et puis c'est aussi une nécessité parce que, hélas, le contexte géopolitique montre à quel point les régions concernées par notre département sont fragiles.
Auparavant, est-ce qu'il y avait déjà des initiatives pour préserver les œuvres du monde entier qui risquaient de souffrir de guerres ou de troubles, ou même, pourquoi pas, de révolutions culturelles?
Alors la prise de conscience patrimoniale consécutive au danger des guerres, c'est une prise de conscience qui est ancienne. Le Louvre lui-même a été confronté à plusieurs reprises à la nécessité d'évacuer ses œuvres, et c'est l'introduction de cette exposition. Le Louvre a aussi toujours été un acteur majeur dans cette préservation du patrimoine national, mais aussi en appui, en soutien à l'international quand cela est possible.
Donc là, on est dans une première étape, on va dire, où il y a à la fois une présentation d'une exposition et aussi un travail qui est fait de préservation en phase, quoi.
Alors, cette exposition au Louvre-Lens, elle vient conforter un discours que nous avions mis en œuvre avec une première exposition qui s'était tenue au Louvre, qui présentait 5 des icônes que nous avons pu accueillir dans le contexte de la guerre. Elle le complète parce que le propos est différent, les œuvres sont différentes, elles n'ont jamais été vues, et le propos ici, au Louvre-Lens, c'est aussi de rappeler qu'en tant que professionnel des musées, nous avons des missions, et que ces missions, c'est aussi de préserver, de montrer, d'expliquer le patrimoine universel. Et c'est bien le sens de cette exposition, avec des œuvres qu'on est peu habitué à voir dans nos musées, qui pose aussi la question de ce qu'est fondamentalement l'icône pour les chrétientés en Orient.
Alors là, on va dire que c'est une opportunité dans un contexte dramatique. Pourquoi ces œuvres-là, en temps de paix, on ne les a pas présentées plus largement dans le monde?
Alors, la connaissance que l'on a des arts de Byzance et des chrétientés en Orient, c'est une connaissance relativement récente dans le domaine de l'histoire de l'art. C'est une discipline qui a une centaine d'années à peu près. Donc par rapport à l'étude de l'art italien, forcément, c'est une discipline jeune. L'art de l'icône est aussi un art vivant, c'est-à-dire que l'icône est un objet de culte pour beaucoup de communautés, et c'est peut-être aussi ce qui a éloigné les historiens de l'art de l'icône en tant que champ d'étude. Pour autant, l'intérêt pour l'icône commence dès le début du XXe siècle par des amateurs, des collectionneurs, par la découverte, notamment par les artistes de la modernité, du pouvoir de l'image et de cette réflexion. Donc je crois qu'il faut parfois du temps pour comprendre certaines formes d'art. La création du département permet aussi d'aborder cette question, de poser la question de l'image, d'aborder la question aussi d'une autre forme de beauté qui ne vise pas au réalisme, mais qui, en s'éloignant de la réalité, veut atteindre la vérité. C'est une autre façon de concevoir l'image.
Alors ces œuvres ont migré, elles se sont un peu exilées, c'est un peu en phase avec l'exposition temporaire actuelle au musée du Louvre-Lens. On voit certaines de ces œuvres très fouillées, très pointues, très riches, très colorées aussi, bien sûr, avec beaucoup d'or, mais des détails assez étonnants.
Alors, ces œuvres, elles ne sont pas en exil. Elles sont temporairement accueillies et elles retourneront dans leur patrie, et c'est notre vœu le plus cher. En revanche, ce sont des œuvres qui montrent la circulation des thèmes, des hommes, des artistes d'abord, et puis des influences, parce qu'en fait, l'art byzantin n'est pas un art figé. C'est un art qui est extrêmement attentif à ce qui se passe autour de lui et ce qui peut potentiellement être intégré à ses concepts. C'est le cas de Théodoros Poulakis qui, au XVIIe siècle, parce qu'il séjourne à Venise, parce qu'il circule en Méditerranée, a accès à la peinture occidentale, à la gravure. Et effectivement, dans ces scènes, on voit des détails qui sont empruntés au Jugement dernier de Michel-Ange, à l'art du Nord par le biais des gravures de Sadeler. Et en fait, ça donne matière à une expression artistique qui est à la fois extrêmement hiératique et très narrative, presque truculente. On a des détails qui sont très, très fouillés, mais qui ne nuisent pas à la composition d'ensemble. Et ça, c'est tout le génie aussi de ces artistes.
Est-ce qu'il y a des similitudes avec ce qu'on peut voir par exemple à Minsk dans le musée des iconographies?
Bien sûr, en fait, ça appartient à la même tradition. L'Europe du Sud, l'Europe centrale, l'Europe de l'Est ont des collections remarquables d'icônes qui montrent à la fois des particularités régionales et en même temps une même conception de l'image qui aboutit aux mêmes formules iconographiques et aux mêmes symboles. Donc c'est vraiment un art qui a pour but de proclamer une véritable pensée et qui pour cela répond à des codes, mais ces codes peuvent être adaptés aux régions.
Donc là, c'est un art religieux. Au même moment, il y avait un foisonnement aussi d'artistes qui faisaient autre chose que de l'iconographie.
Bien sûr, et d'ailleurs, les peintres d'icônes à la période moderne, et notamment au XVIIe siècle, vont parfois réaliser des peintures profanes. Et là, on voit que le style est totalement différent et que donc les choix, c'est des choix assumés qui s'adaptent à la nature de l'image qu'ils produisent.
Peut-être aussi aux commanditaires et au financement.
Sans doute, on a quelques indications sur le statut des peintres. On a peu de mentions de déroutes financières. En fait, les commanditaires sont présents, les peintres ont du travail. Théodoros Poulakis est un peintre extrêmement prolixe, notamment. Et beaucoup de peintres d'icônes aussi sont des religieux qui, en fait, sont dans des monastères, donc qui vivent au rythme de leur communauté.
Ce qui est effectivement étonnant dans cette peinture-là, c'est le fait qu'on retrouve des détails auxquels on ne s'attendait pas, qui viennent de cultes différents.
Tout à fait, dans les deux icônes qui sont présentées et qui fonctionnent en pendant, on a la présence de saints catholiques, très manifestement catholiques, puisqu'on a Sainte Catherine de Sienne, par exemple, on a la représentation de Saint Dominique, donc des saints dominicains, on a la représentation de Saint Antoine de Padoue, Saint franciscain, qui évidemment sont des saints qui ont vécu et qui ont été canonisés après le schisme de l'Église d'Occident et d'Orient. Donc en fait, on est certain ici que le commanditaire est catholique. Ce qui est intéressant, puisque ça montre qu'au XVIIe siècle, époque de la contre-réforme, durant laquelle l'Église catholique repense les images, eh bien, le pouvoir de l'icône était compris et donc pouvait tout à fait être admis dans une pratique cultuelle catholique. Ces icônes, elles sont vraiment des objets d'hybridité et elles montrent aussi que le monde est plus complexe que ce que l'on imagine parfois et que la circulation des hommes et des idées était importante à cette époque.
Donc dans les icônes, on peut y voir aussi de la communication.
C'est avant tout de la communication, l'icône, puisque l'icône a pour but de délivrer un message. C'est une exégèse en images. Donc l'icône est signifiante et à partir de là, c'est une forme de communication.
Et donc est-ce qu'on peut dire qu'actuellement, ça reste des tableaux qu'on peut voir de manière contemporaine assez facilement avec nos yeux d'occidentaux?
Alors, il y a plusieurs manières de regarder une œuvre. L'art de l'icône a beaucoup inspiré les artistes de la modernité. Il n'y aurait pas eu certains développements de la modernité, y compris de l'abstraction, si les artistes qui ont porté ces mouvements ne s'étaient pas intéressés à l'icône. En tout cas, ils se sont intéressés à l'icône, c'est certain. Donc bien sûr qu'un œil moderne et contemporain peut tout à fait apprécier les icônes. L'icône est avant tout une rencontre. C'est avant tout, l'image est faite pour susciter la conscience d'une présence. Donc ça nécessite de prendre le temps de cette rencontre. Et peut-être est-ce ce qui, dans le monde moderne, est parfois compliqué. Prend-on suffisamment le temps de regarder les œuvres d'art? C'est peut-être la seule question qu'on peut se poser.
En même temps, ici, dans ce lieu, on peut prendre le temps. Le lieu est vraiment réalisé pour...
Alors, ça faisait partie des réflexions pour la scénographie. Cette exposition, c'est une petite exposition, 4 œuvres, mais avec une force symbolique très importante. Et donc, on souhaitait que le visiteur puisse prendre le temps de cette rencontre et d'une réflexion sur la réalité du monde aussi.